Cause à effet, le magazine de l'environnement.
Environnement et réchauffement climatique, croissance et New Deal vert, l'âge du progrès a abouti au dérèglement climatique. Nous entrons dans une nouvelle ère et avec elle, nous nous engageons vers une nouvelle économie mondiale, une nouvelle société, de nouveaux modes de consommation, de vie, où les notions de résilience, de décroissance, d'acclimatation et d'adaptation seront déterminantes. Quel plan économique pour sauver la vie sur Terre? C'est la question à laquelle le dernier livre de Jeremy Rifkin, Le New Deal vert mondial, paru aux éditions Les Liens qui libèrent, tente de répondre. Et c'est ce terrain de questionnement qui accapare depuis des années la sociologue Dominique Méda. Basculons-nous dans une société post-croissance? Après l'ère des énergies fossiles, quel projet de civilisation se dessine à l'horizon? Quelles sont les solutions pour mettre en place ce New Deal vert? Pour répondre à ces questions, parole croisée. Aujourd'hui, dans La Voix est libre, avec Jeremy Rifkin, bonjour.
Bonjour, nice to be here.
Merci, nous sommes ravis de vous accueillir également. Vous êtes penseur américain mondialement connu, auteur de livres sur cette nouvelle société de la troisième révolution industrielle. Et vous avez été conseiller de certains chefs d'État en Europe et ailleurs dans le monde. On va en parler avec vous. À vos côtés, l'interprète Michel Zodowski, bien connu des auditeurs de Radio France. Et avec nous également dans le studio, Dominique Méda, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sociologie à l'Université Paris-Dauphine, directrice de l'Institut de recherche pluridisciplinaire en sciences sociales, auteur vous aussi de nombreux livres et notamment, on peut citer les deux derniers, Les nouveaux travailleurs des applis, paru aux presses universitaires de France et puis L'économie au service de la société, livre édité par Les Petits Matins. Bienvenue à tous dans notre magazine de l'environnement, en partenariat toujours avec le service Planète Sciences du Monde, préparé par la fidèle équipe à mes côtés, emmenée par Anaï Morales, avec Anne Gouzon, Valérie Ernoul, Caroline Chausset, Vanessa Chang, toujours à la réalisation Alexandra Malka et à la technique aujourd'hui, Anthony Thomasson.
Vous voulez dire aux gens que leur intérêt pour un air pur et une eau propre est élitiste? Dites ça aux enfants dans le sud du Bronx qui ont le taux le plus élevé d'asthme de l'enfant de tout le pays. Dites ça aux familles de Flint dont les enfants ont du plomb dans le sang et des séquelles cérébrales pour le reste de leur vie. Appelez-les élitistes. Vous leur dites qu'ils essaient de prendre un avion pour Davos. Des gens meurent. Ils meurent. Et la réponse venue de l'autre côté de l'hémicycle est de présenter un amendement 5 minutes avant une audition. Ce qu'on fait est sérieux. Cela ne devrait pas être un sujet militant. Ça concerne nos électeurs, leur vie. Iowa, Nebraska, de larges parties du Midwest se noient en ce moment sous l'eau. Des fermes, des villes qui ne seront jamais reconstruites et qui ne s'en remettront jamais. Et nous sommes là, et les gens seraient davantage intéressés dans l'aide portée aux entreprises pétrolières qu'à leurs propres familles? Je ne crois pas.
Jeremy Rifkin, vous dites que l'année 2018 a été déterminante aux États-Unis avec une nouvelle génération d'élus, de partenaires, de parlementaires, de sénateurs, dont Alexandria Ocasio-Cortez, dont on vient d'entendre la voix. C'était le 27 mars 2019, donc nouvelle élue au Congrès américain. Elle est membre du Parti démocrate. Qu'est-ce qui a changé, selon vous, à partir de 2018?
Ce qui a changé, c'est que le changement climatique est là et affecte la vie de tout un chacun, où qu'il soit et dans toute leur communauté. C'est un moment extraordinaire dans l'histoire du monde. Nous devons faire face à un événement d'extinction mondiale. Nous allons perdre la moitié des espèces qui vivent sur Terre dans les décennies à venir. On ne les reverra jamais. La dernière fois qu'il y a eu une extinction de cette magnitude, c'était il y a 65 millions d'années. Il faut comprendre que ce qui se passe actuellement, c'est que dans chaque communauté, on ressent les changements climatiques, ces sécheresses en été, ces feux de forêt, ces tempêtes, ces neiges. Les gens perdent leur maison, ils perdent leur vie. Le monde qu'ils connaissaient, eh bien, s'en sauvage d'une manière exceptionnelle. Je veux être extrêmement clair sur ce que ces jeunes gens sont en train de faire à travers le monde. Ces jeunes sont en train de manifester à travers le monde entier. Nous n'avons pas vraiment compris de quoi il s'agit. Ce n'est pas comme n'importe quelle autre démonstration ou manifestation de l'histoire. C'est la première révolte globale, mondiale, du genre humain. Dans l'histoire humaine, depuis que les êtres humains sont sur Terre, eh bien, c'est la première fois que ces jeunes se sentent comme une espèce en danger. Et nous devons changer notre espèce, changer les autres créatures. Nous avons maintenant des millions de jeunes qui manifestent dans les rues, et dans 2 ou 3 ans, on va avoir des dizaines de millions. Et dans 5 ou 10 ans, il y en aura des centaines de millions dans les rues, parce que nous devons faire face à l'extinction potentielle de notre genre. Et les jeunes ont dit, ça suffit, cette vieille façon de penser, la civilisation de l'énergie fossile s'écroule, l'ancien modèle libéral nous a amené à cela, et nous sommes maintenant face à quelque chose dont on n'a jamais eu l'expérience. Et c'est le début, je l'espère, et non pas la fin de notre civilisation.
Donc finalement, 2018, ça marque plutôt la prise de conscience plus générale de l'opinion publique. C'est l'opinion publique qui change la donne, pas forcément un Dominique Méda, la prise de conscience ou de chercheurs ou de scientifiques qui alertent, même depuis les années 70. On peut penser au rapport Meadows. 72.
Bien sûr, 70 a justement été le grand moment avec le rapport Meadows, donc Limits to Growth, où on a commencé à tirer la sonnette. Et je voudrais justement insister là-dessus. Pourquoi est-ce que le rapport Meadows, qui nous disait donc qu'un effondrement était possible avant la fin du siècle, pourquoi est-ce qu'on ne les a pas écoutés? Eh bien, notamment parce qu'un économiste, William Nordhaus, qui a eu le prix d'Ig Nobel d'économie il y a quelque temps, parce que cet économiste donc a dit que oui, certainement, mais enfin, ce modèle proposé par les Meadows, il n'était pas très solide, il oubliait le prix, que si on réintégrait le prix, tout irait bien. Puisque, bien sûr, on trouverait des substituts à tout, c'est-à-dire chaque ressource dont le prix augmente, on va trouver son remplaçant. Et que de toute façon, probablement, il se passerait quelque chose, mais dans très, 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 très longtemps. Et le couvercle a été refermé.
Et on a attendu près de 50 ans.
Exactement. Donc là, je reconnais l'optimisme de Jeremy Rifkin. Hein. Il nous dit, c'est formidable, il y a une prise de conscience. Mais moi, j'aimerais qu'elle soit plus grande. Et le problème, c'est le décalage entre la prise de conscience de la société, qui est en effet assez rapide, et celle des gouvernants qui n'avancent pas.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, professeur. Je vais vous dire quelque chose qui va surprendre tous les auditeurs ici. La civilisation de l'énergie fossile, qui était véritablement la fondation de la culture pendant 2 siècles, s'effondre en temps réel. Ce qui se passe, c'est que parce que l'Union européenne a pris le leadership dans le monde pour aller en faveur d'une transformation vers les nouvelles énergies, ça ne suffit pas, bien sûr, mais ce qui se passe, il y a eu un coût qui décroît de façon exponentielle pour les énergies renouvelables. Et à partir de 2019, le coût moyen sur le marché du solaire et de l'éolien est inférieur au nucléaire, beaucoup de loin inférieur au prix du charbon, bien inférieur au prix du pétrole, à peu près le même niveau, meilleur marché que le gaz naturel. Le marché parle. Les banques, les assurances, dans les coulisses, c'est dans mon livre, hein. Ils sont en panique. Pourquoi? Parce qu'il y a 100 billions de dollars en actifs bloqués dans les complexes pétrochimiques, c'est-à-dire du pétrole qui ne sera jamais extrait, des oléoducs qui ne seront jamais utilisés, des raffineries qui vont être abandonnées, et tout le complexe qui va avec. 100 billions de dollars, c'est-à-dire 1 000 milliards à chaque fois, 1 billion. Donc le marché parle parce que l'Union européenne et d'autres pays ont commencé à réduire les prix en utilisant les énergies renouvelables. Mais, il y a un grand mais, vers 2028, on va voir l'effondrement de la civilisation de l'énergie fossile. Le problème, c'est qu'il faut construire en attendant une infrastructure intelligente pour la troisième révolution industrielle dans les 10 années à venir. Sans ça, il y aura un vide. Donc, il faut que les gouvernements prennent le pas, en fait, laissent le pas aux pouvoirs locaux pour que ces billions de dollars qui vont quitter l'industrie fossile et que ça soit appliqué à une infrastructure décarbonée en France et à travers le monde. Si on ne fait pas ça, on est perdu. Si on le fait, On a vraiment une toute petite chance qui peuvent nous permettre au moins de conserver la température sous les 1,5 degré d'augmentation. Mais de toute façon, je voudrais vous le dire, le changement climatique est là. On ne va pas faire marche arrière. Ça affecte le genre humain. Ça ne va pas s'améliorer. Il faut se comprendre que l'idée de Condorcet, l'âge du progrès, c'est fini. Maintenant, on est passé à l'âge de la résilience. Il faut apprendre à vivre et faire attention à notre biosphère. Peut-être que nous pouvons survivre, mais il faut prendre la bonne route.
Je me tourne vers Dominique Méda. Jérémy Rifkin faisait référence à l'Europe, qui, selon lui, par rapport aux États-Unis ou à d'autres pays dans le monde, est plus avancée. Il fait référence à cette nouvelle donne verte que l'Europe a réclamée il y a à peu près 10 ans avec son plan 20-20-20, réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre, augmenter de 20% son efficacité énergétique, augmenter de 20% la production d'énergie renouvelable, en sachant qu'aujourd'hui les critères sont encore plus exigeants. Mais cette Europe est-elle vraiment la locomotive attendue et peut-elle éviter l'effondrement de 2028 prédit par Jérémy Rifkin?
Alors j'ai lu avec beaucoup de plaisir le livre de Jérémy Rifkin, mais je le trouve en effet optimiste sur beaucoup de points quand il nous dit que l'Union européenne et la Chine ont compris ce qu'il fallait faire et sont en train de faire ce qu'il faut. Moi, je ne crois pas qu'il en aille ainsi. C'est-à-dire, bien sûr, on a des discours, on a beaucoup de discours, on a beaucoup d'affichages, mais derrière, franchement, ça n'avance pas. Et un autre point de désaccord que j'ai avec Jérémy Rifkin, j'aime son optimisme, mais je trouve qu'il sous-estime la résistance des intérêts financiers immenses qui sont en jeu et celle des lobbies. C'est-à-dire, en gros, il nous dit, comme ces actifs vont, leurs prix vont s'effondrer, le pétrole, le gaz, etc., tout va bien se passer. Mais moi, je pense que, d'abord, on n'en est pas là, bien sûr, et surtout que tous les gens qui possèdent ces actifs vont se battre comme des chiens jusqu'au bout pour retirer de la terre jusqu'à la dernière goutte de pétrole. Et on voit bien l'immense écart qui existe entre le discours de Jérémy Rifkin et puis Trump, Bolsonaro, tous ces gens, tous les pays du Moyen-Orient qui ont tout intérêt, évidemment, à ce que leurs actifs ne soient pas complètement désinvestis et ne perdent pas toute leur valeur. Donc voilà, moi, c'est mon point. J'aime beaucoup tout ce qu'écrit Jérémy Rifkin. Je suis entièrement d'accord avec lui. En France, on a ce type de discours, nous, depuis 20 ans. On dit aussi, par exemple, dans un des récents bouquins que j'ai écrit avec des collègues, on dit qu'il faut un investissement supplémentaire en France de 20 milliards par an pour s'engager dans la rénovation thermique des bâtiments, que c'est absolument essentiel. Il dit la même chose, Jérémy Rifkin. On est entièrement d'accord, mais la question, c'est comment on fait.
Jérémy Rifkin, alors, est-ce que selon vous, les forces du marché seront plus fortes que les lobbies ?
Je crois que la main invisible est en action. Moi, j'ai été critique du marché depuis des années, 4 ou 5 ans, sur toute une série de problèmes. Mais je veux vous dire que le marché est une force puissante. Je pense que l'industrie de l'énergie fossile va effectivement faire ce qu'elle peut, faire fonctionner ces oléoducs, mais ils ne seront jamais amortis, ils ne seront jamais capables de rembourser l'investissement parce que l'énergie solaire et l'énergie éolienne, les coûts fixes diminuent et le coût marginal pour ces énergies-là est zéro. Vous savez, le soleil et le vent ne vous envoient pas la facture à la fin du mois. Mais vous savez, le pétrole, l'uranium, eux, ils vous envoient une facture à la fin du mois. Je suis d'accord avec le professeur. L'Union européenne devrait avancer plus vite. J'ai travaillé avec eux pour développer un plan. Ça ne va pas assez vite. Je le dis dans mon livre. Je ne dis jamais dans mon livre que je suis optimiste. Je dis, ceci, véritablement, c'est un pas. On est sur le fil du rasoir. Et ça va nécessiter une mobilisation massive du genre humain, telle qu'on ne l'a jamais vue avant. J'ai fait un plan aussi avec la République populaire de Chine. Ils y vont très rapidement vers l'énergie solaire. Depuis ma première rencontre avec la direction en 2013, ils quittent le gaz naturel, ils numérisent tout le réseau de distribution d'électricité, ils sont dans l'énergie solaire, et voilà. Mais je pense que le problème ici est le suivant. Il faut que nous comprenions que ça n'a rien à voir avec les urgences qu'on a eues par le passé. Il faut aller beaucoup plus vite. Et troisièmement, ça va reposer sur les communautés locales pour construire cette nouvelle infrastructure. Je vais vous donner un exemple. L'industrie dans les Hauts-de-France, eh bien, eux, ils sont vraiment en avance. Et c'est quoi le défi? Parce qu'il y a de nombreuses années, le président de la région, M. Pécherot, m'a dit, attendez, est-ce que votre groupe veut venir et préparer un plan pour nous? J'ai dit, on va vous faire un plan avec vous. Mais vous, ce que vous devez faire, c'est mettre en place une nouvelle gouvernance dans la région. On ne peut pas simplement avoir quelques ministres qui s'engagent dans un plan d'une telle magnitude. Chaque ville, chaque région doit se considérer comme étant en mode climat, en mode catastrophe. Je veux qu'il y ait une centaine de personnes qui travaillent côte à côte avec la région Hauts-de-France et ensemble, ils développeront une feuille de route pour cette troisième révolution industrielle. Il peut y avoir des gens sceptiques, mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont fait. Ils sont dans la sixième année de leur entreprise et ils ont gagné le prix de la région la plus en avance en Europe. Et ils enseignent aux petits-enfants des anciens mineurs de rénover leur maison. Je vous le dis, professeur, ça peut être fait dans toutes les régions. Il n'y a pas de réunion collégiale de la sorte, mais c'est la direction vers laquelle ils font aller. Il faut former une participation démocratique quotidienne. Si les Hauts-de-France peuvent le faire, ça nous montre que ça peut être fait.
Dominique Méda, donc l'idée développée par Jérémy Rifkin, et on voit que ça peut fonctionner apparemment dans les Hauts-de-France, ça peut aussi fonctionner en Allemagne, je crois, hein, c'est développé dans son livre, et dans d'autres régions. Est-ce que c'est aussi votre sentiment, c'est-à-dire que cette nouvelle donne, ce New Deal vert, passe d'abord par les localités, les villes, les régions, et puis surtout cette collectivité, c'est-à-dire des pairs et travailler collectivement?
Alors, j'ai beaucoup d'amis dans les Hauts-de-France, notamment Jean Gadret, qui est un économiste qui a beaucoup travaillé justement au plan sur la transition écologique. Bon, moi je ne suis pas certaine que ça soit aussi avancé que ça, mais je ne dis rien. Je crois à leur volontarisme, je crois qu'ils ont fait des choses, mais j'ai de légers doutes sur le fait que ça soit aussi bien avancé que ce que dit Jérémy Rifkin. Maintenant, je voudrais revenir sur trois points. Lorsque Jérémy Rifkin nous dit que le solaire et l'éolien vont remplacer très rapidement, avec un coût marginal zéro, les énergies fossiles, je dis qu'il y a quand même, enfin on le sait bien, d'énormes problèmes techniques encore, et notamment les questions d'intermittence et de stockage. Je ne suis pas une super spécialiste, donc voilà. Il me semble que les problèmes techniques ne sont pas résolus. Deuxièmement, sur le local. Oui, je pense que l'échelle locale est très importante, mais dans la période de transition, il va nous falloir une sorte de planification centrale par un gouvernement qui mènera presque une politique de guerre contre le changement climatique. Et troisièmement, il y a une question qui me semble extrêmement importante, c'est celle de l'investissement dont on a besoin pour opérer cette transition. Et je vous raconte une petite anecdote. J'ai été invitée par le président de la République avec 59 autres personnes au débat que le président de la République avait avec les intellectuels. Et j'ai eu la chance de pouvoir très vite
poser une question. Donnez-nous la question et je vous propose d'écouter la réponse d'Emmanuel Macron.
Ah, super.
La question,
génial.
C'était laquelle?
Alors, ma question, c'était, Monsieur le Président, êtes-vous prêt à mettre en œuvre un grand plan d'investissement pour la transition écologique d'une valeur de 20 milliards par an à peu près supplémentaire pendant 10 ans?
Le scandale sur le sujet climatique est que nous avons accumulé une dette que nous commençons à payer, que nous allons léguer à nos enfants. Si la réponse à cette dette est d'en accumuler une sur le plan budgétaire, en considérant que celle-ci pourrait nous donner lieu à moins de responsabilités, je ne comprends pas la logique, même morale ou politique, de cette approche. Et donc, très sincèrement, je ne pense pas que la réponse, ce soit encore plus de dépenses publiques, parce que c'est précisément ce qu'on fait en France, quelle que soit l'orientation politique, la sensibilité ou l'école qu'on a fait depuis des décennies dès qu'on a un problème. Parce que c'est exactement notre traitement symptomatique des difficultés. Premier point. Ensuite, augmenter les impôts, je regarde aussi, je nous compare, si c'était ce qui rend plus heureux ou plus fort, ça se serait vu, on est parmi les premiers mondiaux. Et après, le sujet des inégalités et du climat. Le sujet des inégalités est un vrai sujet, est au cœur de cette crise, et vous avez raison de le souligner, et j'y adhère. Mais quand je regarde la France, son problème n'est pas les inégalités du système fiscal. Ça n'est pas vrai. C'est la construction des inégalités dans notre société. Et ça, pour le coup, beaucoup d'analyses le montrent.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Dominique Méda, en un mot, vous êtes fait retoquer.
Oui, et surtout, vous n'avez pas mis la réponse qu'il fait avant. Il dit, bon écoutez, vous êtes bien gentil avec votre histoire d'investissement, mais on l'a fait. Nicolas Sarkozy l'a fait. Et ça n'a rien donné. Est-ce que la France est plus heureuse? Non.
Jérémy Rifkin.
Je ne sais vraiment pas par où commencer. Vous avez lu le livre, n'est-ce pas? Vous savez que dans le livre, ce sont des études qui datent de l'an dernier, rapidement, sur le stockage de l'énergie. On n'a pas besoin d'avoir de nouvelles centrales énergétiques parce qu'on a tellement d'énergie solaire et éolienne dans le réseau. Avec le réseau que nous avons, on peut véritablement équilibrer les pics de demande et les baisses. Mais le problème principal, comment financer cela? J'ai écrit des chapitres là-dessus parce que je suis sur le terrain. Je ne suis pas à l'université. Je suis sur le terrain dans ces pays, dans ces communautés, avec les syndicats, avec le gouvernement. Ce que je peux vous dire, c'est ça. C'est pas simplement les impôts. On ne parle plus des impôts. 11 billions de dollars ont été investis dans les 4 années précédentes dans l'industrie fossile. C'est 11 billions. 1 billion, c'est 1000 milliards. Donc, il faut réinvestir, en fait, tout cet argent dans la révolution, la troisième révolution industrielle, avec une rénovation des bâtiments. Le problème, c'est pas l'argent. Le problème, c'est nous avons 9000 villes qui ont signé l'accord de Paris. Et elles vous montrent qu'elles sont en train de reconvertir des bâtiments et des bus à hydrogène. Donc il y a des billions de dollars à réinvestir. Vous savez où est cette source d'argent? Les fonds de pension, les fonds de retraite. Karl Marx se retourne dans sa tombe. Les plus grands capitalistes du monde, ce sont les travailleurs. C'est la plus grande source de capital au monde. Ce qui se produit, c'est que les fonds de pension se retirent de l'énergie fossile. Pourquoi? Parce qu'ils voient l'effondrement venir. Ils l'ont déjà vu dans l'industrie du charbon. Ils ont fait banqueroute parce que le gaz naturel était moins cher. Et maintenant, c'est l'énergie solaire, l'énergie éolienne. Et donc, ils n'ont pas pu payer leur retraite. Ils n'ont pas pu payer la retraite des gens qui avaient investi pendant des années. Et donc, maintenant, les fonds de pension aux États-Unis et en Angleterre se retirent de l'énergie fossile. Et ils nous disent, donnez-nous une feuille de route, montrez-nous un projet. On serait heureux d'investir même à un taux de rendement inférieur parce qu'on serait certain qu'il y a de quoi payer les retraites de nos travailleurs. Mais ce n'est pas simplement les fonds de pension, ce sont les fonds institutionnels, les fonds mondiaux, les fonds souverains. Ils veulent faire ce changement. Mais où est la responsabilité? La responsabilité, elle est sur les régions pour montrer cette révolution industrielle telle qu'on l'a faite au 19e siècle avec la deuxième révolution industrielle et au 19e siècle avec la première révolution industrielle. Si nos ancêtres l'ont fait, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire nous? Mais ça signifie beaucoup plus de vigilance au niveau local. Et les Hauts-de-France, c'est un exemple. C'est vrai, je suis d'accord avec le professeur. Ça doit être beaucoup plus profond, beaucoup plus rapide.
Petite précision quand même, vous nous parlez aussi très clairement de ces forces du marché, hein, qui serait plus forte que les lobbies, parce que vous nous expliquez que les principales filières de l'économie, c'est-à-dire télécommunications, l'internet, l'électricité, les transports, le bâtiment, abandonnent les énergies fossiles pour investir dans les énergies renouvelables, et que là, il y a aussi cette troisième révolution industrielle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ça?
Je vais être très spécifique là-dessus. C'est pas de la théorie. C'est intéressant pour vos auditeurs. L'Allemagne était, si vous voulez, le canari dans la mine. Ils avaient 4 grandes sociétés de services publics qui n'ont pas vu venir ça. Vous savez, l'économiste autrichien Schumpeter parle des grandes ruptures, mais il n'a pas vu que les grandes ruptures, c'est l'infrastructure, comment on communique, les réseaux d'énergie et notre système de transport et de logistique. Ce qui est intéressant en Allemagne, c'est que lorsque le soleil et le vent produisent 14% de l'énergie, 76% pour le nucléaire. L'énergie fossile s'est effondrée. C'est la rapidité avec laquelle le solaire et l'éolien ont grandi. Quand les sociétés d'investissement ont vu qu'elles croissaient plus rapidement que le nucléaire, ils ont changé leur plan d'investissement. Vous savez combien d'argent a été perdu par les grandes sociétés? Des centaines de milliards de dollars. Maintenant, on se découple et on va vers un nouveau business model pour les sociétés d'énergie. Regardez le transport et sont découplés. Seulement 2,5% des véhicules vendus dans le monde sont électriques. C'est tout petit, mais la croissance va à une vitesse exponentielle, la même que la croissance exponentielle du solaire et de l'éolien. Eh bien, par exemple, ce n'est pas un résultat universitaire, c'est un résultat de l'industrie. Les recherches intérieures de l'industrie montrent que d'ici 2024, les véhicules électriques seront beaucoup moins chers. Et en 2028, 20% des véhicules du monde seront électriques. Volkswagen, vous connaissez Volkswagen, le plus grand fabricant de voitures, vient d'investir des milliards d'euros, prévoit que le dernier véhicule à combustion interne, un moteur à combustion interne, sera produit en 2028. Ils mettent 35 000 stations de chargement pour les voitures. BMW le fait, Daimler le fait. Et point final, et voilà ce qui est important là-dedans. Nous consommons 90 millions de barils par jour. Les deux tiers vont vers le transport. Et ça s'effondre. Ça se produit en temps réel. Donc la magnitude de ce changement en raison des prix déclinants de l'éolien et du solaire, et comme le professeur a dit, il faut aller vers les régions et faire en sorte que la nouvelle infrastructure soit mise en place par nos meilleurs talents. Il ne faut plus faire de petits projets en silo, pas de petits projets pilotes. Chaque région a la capacité de créer des millions d'emplois. Mais il faut avoir des dirigeants politiques au niveau local qui sont courageux, qui sont résilients, qui aident des communautés, qui s'engagent en temps réel et à plein temps pour que cette transition arrive.
Et comme vous le disiez, Jérémy Rifkin, il faut aussi que ces véhicules électriques, par exemple, pour ne prendre que cet exemple-là, soient quand même à la portée de la bourse de tous les foyers, parce qu'aujourd'hui, l'équipement n'est pas abordable, pour, ne serait-ce qu'en France, hein, pour les salaires de tous. Dominique Méda.
Sur les fonds de pension, moi j'entends bien ce que dit Jérémy Rifkin, que les fonds de pension vont finalement se reconvertir de l'investissement dans les énergies fossiles vers d'autres énergies. Mais s'ils étaient guidés par le marché ou moraux, comme le suggère Jérémy Rifkin, ils auraient été aussi vers l'investissement socialement responsable. Or, ils n'y ont pas été. Aujourd'hui, la partie des fonds qui sont dans l'investissement socialement responsable est très faible. Et on sait bien que, pour l'instant, l'investissement dans les énergies renouvelables est moins rentable. Donc, pourquoi est-ce que les fonds de pension iraient vers des formules moins rentables? Moi, je veux bien entendre que ça va devenir plus rentable. Mais bon. Deuxièmement, je trouve que Jérémy Rifkin, enfin, on le sait bien, c'est ce qui fait sa caractéristique, mais il croit au progrès technique et technologique. Vous croyez au progrès technique et technologique et vous pensez que ça va nous tirer d'affaire. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que ça suffit? Est-ce qu'on n'a pas trop cru ces dernières décennies, voire ces derniers siècles, au progrès technique? Et vous ne remettez pas du tout en cause nos manières de consommer et notre production. Moi, j'ai une réflexion un peu différente. Depuis une vingtaine d'années, je propose qu'on revoie le fétichisme de la croissance, le fétichisme du PIB, le fait que nous avons en quelque sorte une grille de lecture du monde qui est en même temps un soutien à l'action, hein, qui repose exclusivement sur le PIB, la consommation. Est-ce qu'il ne faut pas lâcher tout ça? Ce qu'on propose, nous, c'est une forme de société post-croissance, remplacer l'indicateur PIB par l'empreinte carbone et un indice de santé sociale, voyez. Donc, ma question est simple, hein. C'est, est-ce que vous ne croyez pas trop au progrès technique? Et est-ce que, en sus du progrès technique, il faut pas aussi s'intéresser à nos rythmes de consommation et de production et les faire considérablement décélérer?
Je voudrais vous dire quelque chose avec en toute humilité. Est-ce que vous avez lu dans un de mes livres?
Peut-être pas les 20.
Chaque livre avec l'entropie a été une critique d'une vision néolibérale de l'économie et de l'impératif de croissance. Dans chacun de mes livres, et toute ma militance a été en faveur de, c'est pas simplement la technologie qui est importante, c'est une présence sociale qui nous permette de comprendre comment nous devons changer notre vie. Dans tous mes livres, y compris celui-là, mais ce que je dis dans le New Deal vert, c'est que la technologie ne va pas suffire. C'est dans mon livre, c'est tout le dernier chapitre qui traite de ça. Et je dis, même si la technologie est là, Il y a un côté sombre dont on doit s'occuper, le darknet, les gouvernements qui utilisent des technologies intelligentes pour leurs propres intérêts. Il faut s'occuper des sociétés de l'Internet qui monopolisent les données. Il faut faire attention à notre vie privée, à la sécurité. Il ne s'agit pas simplement du prix du marché. J'étais très clair, la main invisible ne va pas le faire. Il ne s'agit pas simplement de la technologie. Dans les 4 derniers livres que j'ai publiés en France, le véritable changement doit être dans la conscience. Il faut passer d'une référence géopolitique vers une référence de la biosphère. Il faut comprendre que nous n'avons pas la main sur la Terre entière. Il faut produire et consommer véritablement en équilibre avec la nature. J'ai une confiance légèrement optimiste. On a construit notre monde géopolitique sur le pétrole. Les intérêts spécifiques sont devenus beaucoup plus riches, les riches sont devenus plus riches et les autres sont devenus plus pauvres. Ce que nous voyons actuellement avec le changement climatique ne comprend pas les frontières, il ne connaît pas les frontières. Le changement climatique ne sait pas que le président du Brésil dit « c'est notre Amazon, on va faire ce qu'on veut ». On a des gens qui rentrent chez eux en France, des jeunes, et qui demandent à leurs parents « pourquoi on utilise tellement d'eau ?» Il faut faire attention à l'eau. Il faut économiser l'eau. Pourquoi est-ce qu'on a 2 voitures dehors? Est-ce qu'on ne peut pas partager une voiture? Et d'où vient notre viande? D'où vient notre hamburger? Je le dis aux Français, on a des jeunes qui arrivent, qui rentrent chez eux et qui demandent, est-ce que, par exemple, notre nourriture vient de l'Amazon? Est-ce que la forêt amazonienne a été brûlée et décimée tout simplement pour faire grandir des récoltes pour nourrir les animaux qui nous fournissent notre viande? Et donc, ces arbres ne vont pas remplacer et piéger le CO2? Non. Moi, j'ai dédié ma vie à dire que la technique, la technologie ne suffit pas pour nos vies. Mais sans un changement dans la conscience, sans véritablement la compréhension de la biosphère, sans comprendre que nous ne vivons pas seuls sur Terre, et c'est vraiment au cœur de mes 45 ans d'activité.
Réponse de Dominique Méda dans un instant.
Pourquoi ai-je glissé ma langue dans le passage étroit qui conduit à la gangue de ta bouche? Pourquoi et je glissais ma langue, je m'en mords les doigts. J'aurais dû cette langue la tourner cette fois, car me voici exsangue. Et depuis, pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pourquoi ai-je touché ton corps? Ce geste maladroit, je le regrette encore. Ton corps si chaud, pourquoi a réveillé un mort? Comme je maudis mes bras et leurs piteux efforts, je suis parti tout droit dans le décor. Et depuis, pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pas plus le jour que la nuit.
C'était Alex Baupin, pas plus le jour que la nuit. Et c'est la suite de notre émission de Cause à effet sur France Culture, consacrée aujourd'hui au New Deal vert mondial, au plan économique et social à imaginer pour sauver la vie sur Terre. Et la voie est libre avec nos deux invités sur ce sujet, le penseur américain Jeremy Rifkin, dont le dernier livre s'intitule Le New Deal vert mondial, paru aux éditions Les Liens qui libèrent, et Dominique Méda, professeur de sociologie à l'Université Paris-Dauphine, directrice de l'Institut de recherche pluridisciplinaire en sciences sociales, et dont on peut citer les deux derniers livres, Les Nouveaux Travailleurs des Applis, paru aux presses universitaires de France, et puis L'économie au service de la société, édité par Les Petits Matins. Dominique Méda, vous vouliez répondre
à Jeremy Rifkin. D'abord, je voulais présenter mes excuses à Jeremy Rifkin s'il pense que j'ai attaqué son optimisme. Moi, je suis entièrement d'accord et admiratif de ce qu'il fait, de son but, mais c'est sur la méthode, si vous voulez, que je m'interroge. C'est-à-dire, je me demande si vous accordez
assez d'importance aux forces du mal. Parce qu'on voit bien que certaines forces du mal rattrapent tout. Par exemple, dans votre livre, vous parlez de l'expérience à Toronto et de Google. Au début, ça c'est le sujet de notre dernier livre, on avait l'économie collaborative. Et on se disait, ça va être super, horizontal, on va faire du pair à pair, etc. Et puis, de grands monopoles sont venus capter tout ça. Et nous mettre dans une situation quand même qui n'est pas du tout agréable. Avec des travailleurs qui sont exploités, avec quasiment des situations presque d'esclavage, en tout cas de sous-rémunération. Donc, ma question, c'était aussi sur votre position, par exemple, par rapport au capitalisme, ou bien jusqu'où faut-il changer notre modèle de développement? Est-ce qu'il ne faut pas aller encore plus loin? Voilà, c'était ça ma question.
Hein. Jérémy Rifkin.
Yeah, we should, and I think we need to step back and understand.
On devrait. Il faut faire un pas en arrière et comprendre l'importance des infrastructures dans l'histoire. On parle d'anthropologie, de sociologie, c'est pas ça simplement la question. Il y a 7 transitions d'infrastructures très importantes dans l'histoire de l'humanité. Ce qui se passe, c'est qu'à un certain temps de l'histoire, simplement par sérendipité, certaines révolutions émergent et convergent avec des changements technologiques qui changent notre environnement spatio-temporel, notre environnement, nos business models, nos gouvernements. La raison, c'est que ces infrastructures sont une extension du corps humain, ou du corps. Chaque organisme doit avoir une façon de communiquer, une source d'énergie pour son métabolisme, et une source de mobilité, de motilité pour se mouvoir, et doit avoir une peau pour pouvoir maintenir son habitat. Ces infrastructures sont une façon collective, de plus en plus collective en fait, de se réunir en tant que corps, un corps politique pour gérer le mouvement, l'énergie dans la vie quotidienne. Si on regarde cela, et c'est le bon côté, c'est ça qui me donne de l'espoir. Si vous regardez, par exemple, les cueilleurs-chasseurs, par exemple, la première société humaine, leur empathie s'arrêtait tout simplement à leur lien de sang, parce que ils étaient liés à leur communauté extrêmement proche. Regardez, les sociétés agricoles avec l'irrigation, ça réunissait des milliers de gens qui collaboraient. Qu'est-ce qui les a fait venir dans ces infrastructures? Les premières grandes religions ont été formées à l'époque. Et les gens ont commencé à se considérer comme faisant partie d'une famille religieuse et se considérer comme frères et sœurs. Les premiers chrétiens s'embrassaient comme s'ils étaient des frères et des sœurs. L'empathie s'est étendue à ces infrastructures de plus en plus importantes qui réunissaient plus de gens. Et ce que je dis, c'est que maintenant, non. Il y a eu des périodes sombres dans l'histoire où tout ça s'est effondré. Mais il faut comprendre les relations entre l'infrastructure pour pouvoir communiquer, pour pouvoir avoir de l'énergie et se mouvoir parce que nous sommes des créatures sociales. Ce qui se produit maintenant, on va vers une conscience de la biosphère. C'est positif. Nos jeunes se relient à travers le monde. Ils sont sur Facebook, 2,5 milliards. Ils sont sur Skype. Ils font du sport ensemble. Et donc, on a l'occasion pour le genre humain de se relier directement et surmonter les médias, les États-nations, les grandes sociétés qui dictaient leurs propres conditions. Nous allons maintenant vers une conscience globale et il va falloir changer nos modèles économiques. Je pense que nous allons voir un nouveau système émerger. Je crois que les coopératives seront le nouveau modèle du XXe siècle, des coopératives des petites et moyennes entreprises, plus agiles que les grandes sociétés mondiales. Ils vont pouvoir travailler en blockchain et on le voit déjà, des millions de gens qui créent des coopératives. Les jeunes générations âgées de 20 ans voient une nouvelle forme de marché. Vraiment des réseaux. Ils voient les coopératives comme des institutions coopératives et démocratiques et leurs villes comme des communaux qui doivent être vraiment dirigés localement. Je ne sais pas si ça va réussir, mais tous les germes sont en place.
Rapidement, Dominique.
Un léger désaccord sur cette notion d'empathie. Et je reviens à l'économie des plateformes. On avait des promesses de l'économie collaborative. Ça s'est transformé en capitalisme de plateforme. Et quand vous dites qu'on va vers toujours plus d'empathie et que tous nos systèmes, Internet, etc., permettent de relier les gens ensemble, là, je suis obligée d'avoir un léger désaccord avec vous, pardonnez-moi, mais regardez ce qui se passe avec les nettoyeurs de Facebook qui voient des choses abominables. Il se passe aussi, ces réseaux transportent aussi ou transmettent
commettent des choses absolument abominables. Je ne suis pas sûre que la quantité d'empathie soit plus grande aujourd'hui grâce à ces réseaux Internet qu'hier.
Je suis d'accord. Mais ce qui se produit, c'est que si vous regardez les jeunes des lycées, ils quittent Facebook à travers le monde entier. Vous savez cela. Si vous allez à Paris, si vous allez à Brooklyn, si vous allez à Berlin, en Corée du Sud, les plus jeunes, les 16, 17, 20, 22 ans, ils passent vers des coopératives. Vous savez, il y a 5 ans de retard. Ils ne supportent plus ces grandes plateformes intégrées verticales. On a des jeunes qui mettent en place des services coopératifs parce que la technologie est tellement bon marché, les logiciels sont tellement bon marché, ils n'ont plus besoin, ces grands logiciels, de renvoyer leurs profits vers les actionnaires. Wikipédia, regardez, c'est gratuit, ça ne fait pas partie du PIB, et ce n'est pas une société capitaliste. C'est le numéro 5 des sites visités quotidiennement. Et donc, c'est le premier des sites coopératifs. La jeune génération, ce n'est pas la même chose. La première génération de Silicon Valley, c'était les gens des Millennium, c'était les inventeurs, c'était eux qui avaient les premiers business models. Mais les tout nouveaux, ils vont vers des PME, PMI en coopératif, vers la blockchain. Et eux, ils aplatissent le modèle économique pour qu'on puisse commencer à s'occuper véritablement d'une façon plus communautaire dans la vie quotidienne. C'est très positif. On a cette technologie de façon beaucoup plus démocratisée. Regardez, des millions de personnes produisent leur énergie par le solaire et l'éolien. On n'a plus besoin de ces grandes sociétés pétrolières. Est-ce que ce n'est pas un bon signe? Ça montre que les gens peuvent reprendre possession de leur propre vie.
Alors restons sur les bons signes. Je vous propose de prendre la direction de la rédaction des pages Planète Science du journal Le Monde par Skype avec nous. Bonjour Simon Roger.
Oui, bonjour à tous.
Je sais que vous avez de multiples questions à poser à nos invités, mais nous avons justement abordé un peu le thème de ces jeunes. Et je crois que votre préoccupation aujourd'hui, elle s'est aussi tournée vers la jeune génération.
Jeremy Rifkin, dans son livre, dit que le New Deal vert est un puissant plaidoyer émanant des jeunes. La question qu'on voulait lui poser, c'est comment cette jeune génération, donc ces lycéens, ces étudiants du monde entier, qui ne sont pas de fait aux commandes de la machine économique ou de la machine politique, peuvent vraiment peser sur cette transformation de modèle? Est-ce que c'est, on parle beaucoup des mobilisations des jeunes dans la rue, quels sont les biais par lesquels cette jeune génération montante peut peser et contribuer à ce Green New Deal?
Jeremy Rifkin.
Chaque enfant du monde a un téléphone intelligent, un smartphone. Les Coréens, les Chinois ont des smartphones qui coûtent $25 avec plus de pouvoir de calcul que ce qu'on a utilisé pour envoyer un homme sur la Lune. Donc, tout le monde peut produire sa propre énergie, c'est de moins en moins cher. Et vraiment, ça fait s'écrouler la géopolitique de l'énergie fossile. Ces jeunes peuvent outrepasser les systèmes de télécommunications centralisés qui dictent leurs lois. La même chose se produit dans le système de transport avec les systèmes partagés. Le problème ici est le suivant. C'est très bien que les jeunes manifestent dans les rues. C'est la première rébellion planétaire du monde. C'est la première reconnaissance du fait que nous soyons une espèce en danger. Maintenant, ça doit s'approfondir. Les manifestations doivent rester non violentes, mais doivent être de plus en plus vigilantes, parce qu'il faut faire pression sur la société pour aller vers cette transition. Mais les jeunes doivent s'engager, pas seulement dans la rue, mais au sein de leur communauté, dans les universités, dans les ONG, dans les coopératives locales, dans les PME, les PMI, dans leurs familles. Tous, nous sommes maintenant à l'âge de la résilience. Nous devons tous nous considérer comme des élus, ou sinon, nous ne pourrons pas faire cette transition. Quelle que soit la technologie, ça ne se produira pas. Mais ça peut se faire. Et je le dirais, en France, il faut surmonter le cynisme, le scepticisme, et toujours demander au gouvernement de le faire pour nous. Non, il faut que ça passe aux régions, aux localités. Faites-le demain matin.
Simon Roger.
Je voudrais juste avoir sa réaction. Comment réagit-il aux attaques très très virulentes dont est victime certains porte-paroles de ce mouvement de la jeunesse, et notamment la jeune Greta Thunberg?
Je dirais à Greta, reste forte. Toute personne qui a été militante sur la rue, nous savons très bien ce qui t'arrive. Il n'y a rien qui lie mieux les gens que l'impulsion empathique. notre impulsion empathique va nous aider, qui nous permet de créer des communautés, faire attention les uns aux autres. C'est construit dans notre circuit neural. Il ne faut pas le perdre en étant tout le temps sceptique, cynique, en disant « non, ça ne peut pas se faire ». Le réalisme n'a aucun sens aujourd'hui. Maintenant, il faut véritablement compter les uns sur les autres et collectivement, dans toutes les communautés, faire attention à notre biosphère. Personne ne va le faire pour nous. Il faut le faire nous-mêmes à l'échelon local.
Merci Simon Roger. On vous laisse reprendre les commandes de la rédaction des pages Planète du Monde. Merci à vous.
Merci, au revoir.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Dominique Méda, Jérémy Rifkin parlait de ces jeunes, de l'importance aussi de les voir investir des lieux aussi de décision ou de pouvoir pour faire avancer ce New Deal vert. Je crois que vous êtes impliqué aussi au cœur de la Convention citoyenne pour le climat, nouvellement créée en France. Vous avez ce regard-là. Est-ce qu'il y a là un levier possible pour faire avancer cette troisième révolution industrielle?
Oui, j'ai la chance d'être, comme un certain nombre d'autres chercheurs, observatrice des travaux de cette convention. Et je dois dire que le premier week-end m'a vraiment beaucoup intéressée. Je me suis retrouvée notamment à une table ronde avec les jeunes, très 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 investis. Je rejoins tout à fait ce que disait Jérémy Rifkin, hein. Il faut leur donner de l'espoir parce que là, aujourd'hui, ils sont quand même assez désespérés et ils ne comprennent pas pourquoi on ne bouge pas plus vite. Donc, je mets beaucoup d'espoir dans cette convention citoyenne parce que ce que j'ai vu de la réaction des citoyens le deuxième jour, c'est qu'ils se sont emparés de la séance pour poser toute une liste de questions assez rhétoriques, hein, du genre, mais est-ce qu'il ne faut pas lutter contre les intérêts financiers, faire du ferroutage, bref, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Et je pense que il faut aussi montrer pourquoi cette nouvelle société sera désirable.
Et elle peut créer des emplois.
Exactement. Elle sera désirable parce qu'on mangera certainement plus sain, parce qu'on respirera, parce qu'il y aura encore de l'eau, mais aussi je pense qu'on pourra en effet créer des emplois, peut-être revoir radicalement les formes d'organisation du travail, et donc ça, il faudrait qu'on ait à la fois un mélange d'imaginaire et de documentaire presque qui nous montre que c'est possible pour permettre, pour donner envie à ces jeunes de s'engager dans cette voie.
Jérémy Rifkin, donc deux points importants à voir avec vous. On a compris que les jeunes, les citoyens n'attendaient plus grand-chose, peut-être des États, en tout cas n'y croyaient pas, et avaient pris conscience du rôle qu'ils devaient jouer. Malgré tout, à la fin de votre livre, vous donnez des conseils, il y en a 23 je crois, si je ne m'abuse, des conseils directement orientés vers les États, vers les gouvernements. Et vous parlez, parmi ces conseils, d'armes et d'outils à mettre en place, c'est-à-dire taxes carbone, crédit d'impôt et autres déductions, mettre fin à l'agriculture pétrochimique, au profit du biologique et de l'écologie, créer une banque nationale verte, revoir la législation fiscale pour réduire les inégalités et faire payer un peu plus les plus riches. Bill Gates y est d'ailleurs favorable. Donc vous avez quand même ces conseils, tout en sachant qu'on ne peut pas compter uniquement sur les hommes d'État pour accomplir ce New Deal vert.
Je suis très content que vous souleviez cette question parce qu'à la fin de mon livre, le New Deal vert mondial, j'ai ces 23 conseils que je donne et ça arrive à un moment où je pense que ces choses-là peuvent être faites dès demain matin. Quand on regarde ces 23 thèmes, les jeunes vont dire « je suis d'accord avec ceci, je suis d'accord avec cela ». Mais ce que ça donne, c'est un récit. C'est les jeunes ont peur, les vieux ont peur. Les jeunes nous disent « Mes parents m'ont menti sur l'avenir. Est-ce que je dois avoir des enfants ?» Non, c'est une liste de programmes. En fait, ce qu'il faut, c'est un nouveau narratif, une nouvelle façon de réfléchir sur ce que doit devenir l'humanité. Je suis d'accord avec le professeur sur ce plan-là. Ce qu'il faut faire ici, c'est qu'on doit être capable de comprendre qu'on ne peut pas simplement se contenter d'avoir des projets pilotes, des petits projets. Il faut que chaque communauté se demande, comme assemblée collégiale, que voulons-nous pour notre communauté? Quel type de résilience voulons-nous construire? Quelles sont nos obligations les uns envers les autres dans la communauté où nous vivons, dans la ville, dans la région? Comment est-ce qu'on utilise les nouvelles technologies d'une façon intelligente pour que ça ne soit pas contrôlé par les grosses sociétés, mais contrôlé par nous, par des coopératives, par des communs? Comment considérer l'intérêt commun avant de regarder l'intérêt spécifique? Eh bien, le groupe dans lequel nous nous sommes impliqués, dans dans les régions, eh bien, ils le font. Ils laissent les intérêts spécifiques, ils les abandonnent. Ils se réunissent pendant plusieurs années pour construire l'avenir. Et ils passent des années en maintenant ces comités, comme des grands jurys, si vous voulez. Mais ils restent engagés. En fait, si nous ne le faisons pas, le gouvernement local, en soi-même, ne peut pas exactement surmonter une situation de désastre. Et les jeunes vont prendre peur et abandonner. Et ça donnera naissance à des mouvements très étranges. Mais si les gens se réunissent d'une façon plus structurée, collégiale, faire confiance les uns aux autres, à ce moment-là, on a une chance de construire sur une expérience empathique qui peut être transférée aux enfants, aux petits-enfants et aux arrière-petits-enfants. Comprendre que les jours de gouvernement centralisé, ce sont des journées qui sont finies, qui sont passées. Et maintenant, tout le public doit être impliqué. Pas simplement au moment des élections, mais au jour le jour.
Et il faut accepter de concevoir le travail autrement, Jérémy Rifkin. Est-ce qu'il faut aussi accepter d'arrêter de parler de capitalisme, de parler de croissance, mais d'avoir peut-être d'autres notions et d'autres indicateurs que le PIB?
Vous savez, je l'ai dit dans le livre, j'étais très clair. Il faut passer des marchés vers les réseaux, parce que l'infrastructure des troisièmes révolutions industrielles, vous savez, les infrastructures dans l'histoire, c'était quelles étaient les occasions et les contraintes. Première et deuxième révolution industrielle, c'était sur la centralisation. Mais la troisième révolution industrielle est décentralisée, elle est horizontale. Donc ce que l'on voit ici, c'est l'occasion, avec cette infrastructure distribuée, de créer une nouvelle forme de communauté, une fraternité à la française. Vous savez, liberté, égalité, fraternité, c'est français. Le mot important ici, c'est fraternité et égalité. Ce sont les mots importants. L'infrastructure est là. Elle peut être monopolisée, bien sûr, mais c'est notre responsabilité de faire en sorte que ça ne se produise pas. C'est notre responsabilité d'avoir des lois antitrust, de pouvoir voir quelles sont ces plateformes, de prendre contrôle de nos propres plateformes pour travailler au bénéfice de la communauté au sein de laquelle on vit. Et si on ne le fait pas, on n'aura aucune excuse. J'ai dit aux gens, arrêtez de vous plaindre. Si vous ne voulez pas vous réunir et prendre contrôle de l'infrastructure que vous utilisez pour vos vies, arrêtez de vous plaindre. Arrêtez d'attendre un héros, un chevalier blanc qui soit élu. Non, faites-le vous-même dans vos propres communautés. Avec vos propres gouvernements.
On arrive au terme de cette émission. Allez, un mot de la fin chacun, Dominique Méda.
Moi je dis, vive la coopération entre chercheurs. Il faut qu'on se réunisse avec Jérémy Rifkin, nous, tout ce qu'on a fait du côté de la promotion des sociétés post-croissance, de la dénonciation, de la mystique de la croissance. Je pense que ça peut être tout à fait passionnant.
Jérémy Rifkin, la proposition de Dominique Méda.
Il faut passer des marchés au réseau, il faut passer de la propriété à l'accès, passer du PIB à la qualité de la vie, à des indicateurs de la qualité de la vie. Il faut passer de vendeurs et acheteurs à fournisseurs et utilisateurs de réseaux et des externalités à la circularité. C'est la seule façon de le faire, une forme coopérative, une façon intelligente. La technologie intelligente, c'est le pouvoir pour le peuple. On l'a vu avec le solaire et l'éolien, le pouvoir est au peuple. On l'a vu avec cela et on peut le faire dans beaucoup d'autres chemins de la vie. Donc voilà, on a sonné le réveil. J'espère que la France va diriger cette révolution en Europe. Ursula von der Leyen a dit, le nouveau deal vert sera le morceau central. J'espère que cela sera le cas. J'espère que nous serons présents et je voudrais que la France dirige cette nouvelle transformation en Europe. Elle le fera.
Merci Jérémy Rifkin. Le New Deal vert mondial, c'est le titre de votre dernier livre paru aux éditions Les Liens qui Libèrent. Et je salue Michel Zlotowski. Merci Dominique Méda. Citons vos deux derniers livres, Les Nouveaux Travailleurs des Applis, paru aux Presses Universitaires de France, et L'Économie au service de la société, édité par Les Petits Matins. Et comme toujours, toutes les informations, les liens, les compléments sont à votre disposition sur le site de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet, réécoute et téléchargement à loisir. Samedi prochain, nous nous intéresserons à la pollution plastique et à son itinéraire dans les fleuves et les rivières, avant qu'elle n'aboutisse dans l'océan, et nous serons en compagnie d'Éric Orsena et de Gilles Boeuf.